Chronique environnement en compagnie du coordonnateur de projet en environnement en charge de la mobilisation à l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, M. Yoann Jalouseau qui est au bout du fil. Bonjour Yoann.
Bonjour Simon.
D'abord, on peut parler de la dernière chronique où tu as dit que tu nous parlerais des frayères. Est-ce que c'est toujours le cas pour aujourd'hui?
Oui, absolument. On va parler des zones de frais, donc pour plusieurs espèces de poissons d'intérêt, voir à quelle période elles font ça, dans quelle zone, et à quel point elles sont sensibles aux perturbations aussi. Donc, je vais essayer de pas faire des listes exhaustives pour chaque espèce, sinon ça va être un peu plate, mais on va aborder les principales caractéristiques.
Excellent. Par quelle espèce on va commencer?
Bien, on va commencer par le brochet et la perchaude, parce qu'ils ont des cycles de frais similaires, en fait. La période de frais pour ces espèces, c'est début avril à fin juin. C'est des espèces qui préfèrent des substrats de type herbier, à la fois parce qu'elles peuvent y chasser en restant en embuscade, mais également parce que leurs œufs vont pouvoir se fixer sur les végétaux. À noter que le brochet, en fait, il y a quand même une préférence pour les zones inondables et que les alevins, ils vont y rester pendant 2 semaines après l'éclosion. Puis les herbiers, pourquoi? Parce qu'ils constituent des habitats riches en nourriture pour les jeunes. Que c'est également un lieu où on va retrouver beaucoup de macro-invertébrés, donc des larves d'insectes, ainsi que des petits poissons. Puis j'ai oublié de mentionner, mais pour les masquis nongés, c'est exactement la même chose, tout simplement parce que le masquis nongé, c'est de la même famille que le brochet.
Donc ça, c'était pour le brochet, le masquis nongé et la perchaude. Est-ce que c'est similaire pour le doré?
Pour la période, oui, c'est également de début avril à fin juin. Par contre, les dorés, ils n'utilisent pas le même support, donc ils n'utilisent pas les herbiers. Ils vont avoir une préférence pour les sols qui sont rocheux ou graveleux et de quand même gros diamètre.
Pourquoi de gros diamètre?
Parce que les œufs, ils ont besoin d'une bonne oxygénation de l'eau. Donc, c'est souvent au pied des rapides ou dans des berges très venteuses qu'on va les retrouver. Et les gros graviers et roches, ils permettent aux œufs de tout de même être bien fixés sur le substrat. Si le doré est présent dans un lac, donc ces zones de frais vont être soit à l'endroit où un ruisseau, une petite rivière se jette dedans, soit là où c'est assez venteux.
Et est-ce que, par hasard, il y aurait au contraire des espèces qui préfèrent les petits graviers ou encore les petits cailloux?
Oui, tout à fait. Puis c'est le cas de l'affigan à petite bouche, par exemple. Lui, il aime donc les endroits structurés avec des cachettes comme des troncs, des herbiers, des quais, mais également des roches et du gravier. L'affigan, sa période de frais, elle va être similaire aux autres. Donc, c'est début avril à début juillet. Et en fait, il aime les cachettes à la fois pour chasser, mais également pour pas devenir une proie le temps qu'il fasse son nid dans le gravier. Le fait le plus intéressant, c'est que pour l'affigan, c'est le mâle qui s'occupe de faire un nid de qualité pour la femelle et pour la progéniture. Donc en fait, il va dégager les pierres et les roches dans le but de créer un cercle qui peut aller jusqu'à 2 mètres de diamètre. Il va seulement laisser les roches qui sont situées au centre. Ensuite, la femelle, elle va pondre ses œufs donc au milieu du gros cercle qui va être créé par le mâle.
Si on parle des truites, c'est quand leur période de frais?
Pour les truites, c'est quand même un peu différent. Donc, on parle à la fois du touladi, qui est la truite grise, et de qui est la truite mouchetée. Ça va être à l'automne, lorsque l'eau est plus fraîche, étant donné qu'ils ont besoin d'une eau qui est vraiment oxygénée. Et que quand l'eau est froide, elle retient bien mieux les gaz dont l'oxygène dissout qu'une eau qui est chaude, un peu comme une boisson gazeuse qui perd son gaz lorsqu'elle est laissée au soleil plutôt qu'au frigo, par exemple. Les truites...
Oh, malheureusement, on a perdu la communication avec Yoann. Mais très intéressant, ces périodes de frais, effectivement. Et je pense qu'il y a des espèces aussi qui sont en situation préoccupante, comme le cas de l'esturgeon jaune qui existait depuis l'époque des dinosaures, mais qui est actuellement dans la liste rouge des espèces en péril de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et pourquoi? À la fois parce qu'il y a eu un déclin historique de l'espèce depuis l'arrivée des premiers colons, parce qu'ils le considéraient comme nuisible. Puis, il a été surexploité par la suite pour sa viande et pour ses œufs, soit le caviar. Et maintenant, sa principale menace, ce sont bien sûr les barrages, tout simplement. Donc, on le dit encore une fois, la restauration des frayères rentre dans des projets de compensation. On peut réussir à débloquer de l'argent relativement facilement. Donc, si vous voyez des zones où ce serait possible de restaurer des frayères, vous pouvez contacter l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, histoire que l'on voit ce qu'on peut faire là-dessus. Et pour répondre à la question lors de la prochaine chronique environnement, Johan qui voulait que l'on aille un peu plus loin sur le sujet, donc il va essayer de trouver un ou une intervenante qui a effectué des projets de restauration de frayères, histoire que cette personne-là puisse présenter ce projet. Sinon, un autre sujet potentiel sera la biodiversité en milieu agricole. Ce sera donc la surprise et on vous invite bien sûr à être présent à la prochaine chronique environnement. Merci beaucoup à Johan Jalouseau, coordonnateur de projets en environnement en charge de la mobilisation à l'organisme du bassin versant du Témiscamingue.